Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est le troisième lundi du mois. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la voix sans du ni maître de la Fédération anarchiste, la société dont sous état, moi-même le micro, Lulu à la technique. Bonjour Lulu.
Salut.
Aujourd'hui, au téléphone, nous sommes avec Madame Catherine Cocry-Vidrovitch. Bonjour Madame Cocry-Vidrovitch, vous m'entendez bien ?
Oui, je vous entends très bien, merci.
Nous vous entendons aussi très bien, merci à vous. Tout d'abord, je tiens encore à vous renouveler mes remerciements pour avoir accepté de participer à cette émission. Tout d'abord, je vais vous demander de présenter vos travaux. Vous êtes historienne et spécialiste de l'Afrique et de la colonisation, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Donc, de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire de l'Afrique non Afrique du Nord, disons.
D'accord. Et donc, vous avez mené vos travaux principalement sur l'histoire de l'Afrique et spécifiquement sur l'histoire de la colonisation,
hein ? Essentiellement, oui. D'accord. La période coloniale, disons.
Alors, je vous ai invité à participer à cette émission parce qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu une présentation d'un éditeur, Le Passager Clandestin, pour la nouvelle édition, la réédition d'un livre qui avait été initialement édité en 2014 et qui vient d'être édité en 2024. L'éditeur s'appelle Le Passager Clandestin et ce livre que vous avez préfacé et que vous présentez s'appelle Le Rapport Brazza.
Oui, c'est ça.
Alors, ce rapport Brazza, on va le détailler, on va en parler ensemble, mais il a une histoire très particulière que j'aimerais que vous nous racontiez, c'est comment et dans quelles circonstances vous avez découvert ce rapport Brazza qui porte sur une période très particulière de l'histoire de la colonisation française et de la colonisation en particulier du Congo français, puisqu'il y avait aussi le Congo qui était sous la domination belge. Comment vous avez découvert ce rapport et dans quelles circonstances vous l'avez retrouvé ?
Bien, écoutez, c'était dans le cadre d'un travail que l'on demande aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs pour devenir professeurs, c'est-à-dire, ça n'existe plus, ce qu'on appelait une thèse d'État. Maintenant, ça porte un autre nom. C'était une thèse très longue, enfin, qui met une dizaine d'années pour être préparée, et qui portait sur l'Afrique équatoriale alors française, c'est-à-dire Gabon, Congo, Centrafrique et Tchad, et accessoirement aussi un peu le Cameroun. Et donc j'étais en train de dépouiller toute une série d'archives sur cette question, sur l'exploitation coloniale par la France, qui était catastrophique d'ailleurs, de cette partie du monde, qui a commencé dans les années 1880. Et moi, je travaillais sur la période 1900-1930. Et au cours de ces recherches qui me faisaient ouvrir beaucoup de dossiers d'archives, je suis tombée sur une archive importante, un document très important, supposé perdu, qui s'appelle le rapport La Naissance, c'est-à-dire portant le nom de celui qui avait succédé à Brazza pour la direction de ce rapport, qui résumait les travaux et les épouvantables constats de Brazza dans une mission qu'il avait effectuée en Afrique équatoriale au début de l'année 1905. Alors, ce rapport était supposé perdu et personne ne savait où il était. Ben, écoutez, il avait été rangé. En tous les cas, une partie du rapport, c'est-à-dire le dossier qui était réservé au ministre des colonies, avait quitté le ministère des colonies avec le ministre des colonies qui avait changé, et les archives du ministère avaient été envoyées aux archives nationales. Donc le dossier était tout simplement dans les archives 1905 des archives nationales, là où il aurait dû être, où personne n'avait eu l'idée de le chercher. C'est ce que je faisais là, c'était en 1965. Et ce rapport est très important, on va en parler dans un instant. Et j'ai compris tout de suite qu'il était important, donc je l'ai fait photocopier. À l'époque, c'était pas si simple que ça, parce que ça marchait pas tellement bien aux archives nationales, la photocopie. Et puis je me suis dit, je vais en faire quelque chose, c'est très important. Et ça n'est qu'en 2010... que l'éditeur du Passager Clandestin a eu connaissance de l'existence de ce rapport et est venu me dire il paraît que vous avez le rapport. J'ai dit, ben oui, effectivement, j'ai le rapport sur mon ordinateur et je veux le publier. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Mais avant que vous ne découvriez ce rapport, est-ce que vous aviez eu connaissance de ce rapport et de l'histoire qui était liée à cette mission confiée à Pierre Savagnin de Brazzard? Est-ce que dans les milieux de l'histoire de l'Afrique ou les milieux de l'histoire du colonialisme à l'époque, est-ce qu'il y avait eu des traces ou est-ce qu'on avait une idée qu'il y avait eu à un moment donné une mission d'enquête au Congo au début de l'année 1905?
Alors, il y a eu ça, justement, au début des années du XXe siècle. Ça a été très important jusque dans les années 1910. Je crois que le dernier article qui réclame la publication du rapport, c'est un article du journal de l'Humanité qui paraît en 1909. Puis après, on l'a oublié. On a dit, bon, il est perdu. Et ce rapport était très important parce qu'il était le résultat d'un scandale épouvantable qui s'était passé en Afrique équatoriale. Vous savez, il y avait beaucoup d'abus coloniaux à l'époque. Ce qui avait été très connu, ce sont des abus de la colonisation belge, qu'on appelait le Congo sanglant, le Congo rouge, donc sur la rive gauche du fleuve Congo. Et on ne parlait pas beaucoup de la rive droite qui allait devenir à cette époque-là française, où finalement il y a eu un scandale qui a été dissimulé, mais qui est arrivé, ça remonte à 1903, mais il a été connu à Paris en 1905. Et au début 1905, vous avez des articles scandalisés dans les journaux qui racontent que deux administrateurs français, au fin fond de la forêt dense, en Ubangui-Chari, c'est-à-dire en Centrafrique actuelle, avaient voulu fêter le 14 juillet en introduisant un bâton de dynamite dans le derrière d'un Africain condamné à mort, qui évidemment avait sauté. Et ça avait probablement beaucoup amusé le peu d'assistance qu'il y avait. C'est donc un scandale épouvantable qui est dissimulé par les autorités de l'Afrique équatoriale, mais quelqu'un a parlé, et finalement c'est deux ans après, un an et demi après, en 1905, que l'affaire arrive à Paris. Donc le ministre des colonies doit intervenir, d'autant plus que à l'époque, les scandales du Congo belge ont éclaté et que la France se dit ben, c'est pas si mal qu'il y ait des scandales au Congo belge, parce que comme ça, nous pourrons probablement prendre cette partie du Congo à la Belgique si elle est désavouée. Donc il faut montrer au contraire que du côté français, il n'y a pas de scandale. Donc on va faire une grande mission pour démontrer que tout va bien du côté français, c'est-à-dire sur la rive droite du fleuve Congo. Et on rappelle Savagnin de Brazzard. Savagnin de Brazzard était un explorateur.
Oui, excusez-moi, Madame Cocry-Vaudreville, j'aimerais qu'on s'arrête un instant justement sur ce personnage qui est central hein, dans ce que vous nous présentez, donc de ce rapport qui porte son nom. C'est un personnage assez haut en couleur. Hein, il a un parcours sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu parce que il est assez détonnant dans ce milieu du colonialisme français de la fin du 19e siècle. Déjà, il est d'origine italienne, il vient d'une famille noble, il est militaire.
Il a la passion de la marine, il veut faire carrière dans la marine française parce qu'elle a une bonne réputation, qu'il a à cheval sur la culture italienne et la culture française, où il a fait ses études en France, et il veut, comme d'autres explorateurs à l'époque le faisaient, donner une colonie à la France. Ce qu'il va faire avec ce qu'on appelle à l'époque le Congo français, c'est-à-dire en fait, ce qui deviendra un peu plus tard, l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire les quatre États que je viens de citer tout à l'heure. Et donc ceci se passe à partir des années 1878, et finalement il va prendre possession au nom de la France du Congo français en 1885. Et il est l'administrateur général, le haut commissaire de ce qu'on appelle à l'époque le Congo français, jusqu'à la fin du 19e siècle.
Il rencontre, excusez-moi de vous interrompre, il rencontre et il signe, je crois, un traité avec un des rois d'une population locale.
Il a signé un traité en 1885 avec le souverain des Patékés, c'est-à-dire la population qui dominait cette partie du fleuve. Et alors, ce genre de traité était très souvent signé par des Français qui les proposaient au gouvernement français, qui en général les refusait parce que il n'y avait pas tellement d'ambition à l'époque sur l'expansion en Afrique équatoriale. Mais le contexte colonial devenant de plus en plus pressant, finalement, l'Assemblée française a reconnu le traité Brazza qu'il avait signé donc avec un chef Téké, le peuple Patékés qui habitait cette région.
C'était Makolo, c'est ça? Makolo, je crois.
Le souverain Ilo. Oui.
D'accord.
Et alors, ce traité existe toujours. Il est conservé dans les archives du ministère des Affaires étrangères, l'ancien ministère de la coopération. Et effectivement, il a été signé, je crois, par le souverain Makoko, et il reconnaît la souveraineté de la France sur cette partie de l'Afrique. 1885.
Mais il y a aussi à ce moment-là un contexte européen, puisque je crois qu'il y a le congrès de Berlin qui va en quelque sorte distribuer les cartes, si je puis dire, entre les différentes puissances coloniales européennes.
Alors il a été très important ce congrès international de Berlin en 1885-86, parce que les différentes puissances coloniales commencent à envisager leur colonisation. Elles sont toutes concurrentes les unes avec les autres. Et finalement, la conférence a pour objet d'empêcher les puissances européennes de se faire la guerre pour partager l'Afrique. Donc elles vont toutes se retrouver à Bruxelles en 1885-86 pour décider de la distribution. Et dans cette distribution, effectivement, c'est là que la France se voit reconnaître la colonisation du Congo. C'est là qu'apparaît en fait le partage de l'Afrique, le début du partage de l'Afrique, qui va pouvoir se concrétiser par des expéditions de pacification, ce qu'on appelle pacification, c'est-à-dire de conquête, à l'époque, qui vont se poursuivre jusqu'à la Première Guerre mondiale. La conférence de Berlin était très importante pour éviter aux puissances coloniales de se faire la guerre pour se partager le continent africain.
Mais il va y avoir des rivalités. On se rappelle, ou en tout cas, c'est des vieux souvenirs d'histoire, de mon enfance. On en parlait quand même un petit peu, même si la colonisation n'a jamais été aussi longuement enseignée qu'elle aurait dû l'être. Mais il y avait cette rivalité entre la France et la Grande-Bretagne.
La grande puissance coloniale, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était la Grande-Bretagne. Justement, la France voulait devenir plus ou moins l'égale de la Grande-Bretagne, en particulier en Afrique. Donc, il y avait les autres aussi. Il y avait les Portugais qui étaient les premiers, les premiers Européens à avoir un peu pénétré l'Afrique dès le XVIe siècle, qui disaient qu'ils avaient des droits de premiers occupants. Il y avait les Allemands qui se disaient qu'ils aimeraient bien aussi avoir quelque chose, qui préparaient quelque chose du côté du Cameroun. Bref, il y avait une grosse rivalité inter-européenne sur l'Afrique, précisément à cette période-là. Et c'est pourquoi a lieu la conférence de Berlin, pour empêcher que les puissances occidentales se fassent la guerre à propos de l'Afrique. Et elles se sont, on a dit, partagées les zones d'influence qui vont progressivement, une vingtaine d'années, devenir des colonies.
Et j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit instant, si vous le permettez, sur le cas très particulier du Congo belge, qui en fait, à ce moment-là, n'est pas belge, mais la propriété personnelle du roi Léopold II.
Oui, alors c'est très précisément, c'est ce qui se passe en 1885. Léopold, le roi des Belges, qui est un gouvernement constitutionnel, veut une colonie. Alors il a cherché une colonie un peu partout, et finalement il a cherché en Amérique, il a cherché s'il y avait possibilité en Asie. Et finalement il a recruté un explorateur américain, Stanley, pour explorer les rives du Congo. Stanley est parti des sources du Congo, c'est-à-dire d'Afrique de l'Est, et redescendu le long du fleuve jusqu'à l'Atlantique. Et il commence à mettre la main sur le Congo, mais il est sur la rive gauche. Et Brazza, qui sait que Stanley est là, qui a déjà occupé le Gabon, veille à ce que la rive droite du fleuve reste domination française. C'est la raison de ce
traité, oui.
De cette relation de 1885, qui empêche les Belges de mettre la main. Donc les Belges, à partir de ce moment-là, Léopold est roi souverain de la rive gauche du fleuve. Il est, à titre personnel, parce que la Belgique n'a pas voulu prendre une colonie, le Parlement belge trouve que c'est une aventure extravagante et dit nous n'en voulons pas. Donc nous n'en voulons que si c'est le roi qui prend sa responsabilité, si bien que Léopold devient roi absolu du Congo belge sans contrôle de la
du gouvernement.
Donc c'est le début de l'exploitation du caoutchouc de Coyette qui est très important, qui va devancer celui du Brésil et qui est très important en particulier avec le débarrage de l'industrie automobile et des pneus automobiles. Donc la fin du 19e siècle, c'est la grande époque du caoutchouc. Et du caoutchouc de liane, on en trouve effectivement au Congo. Donc Léopold investit énormément, il n'y a absolument aucun contrôle, donc il a des agents directs qui ont des méthodes extrêmement brutales, qui emprisonnent les gens pour les empêcher, pour les obliger à cultiver, à récolter le latex dont on va faire le caoutchouc, etc. Et ça fait un scandale international qui commence dans les années 1903 et qui donne à la France, comme je disais tout à l'heure, l'espoir que la France va pouvoir prendre le Congo aux Belges si Léopold est démontré comme effectivement ayant commis trop d'exactions. C'est dans ce contexte qu'éclate le scandale français que je viens de rappeler tout à l'heure, au début de 1905. Et c'est pourquoi les Français, le ministre des colonies, décide de lancer tout de suite une grande expédition pour démontrer que du côté français, ça se passe beaucoup mieux que du côté belge.
Il faut quand même, si vous permettez, insister sur sur ce contexte avec l'histoire tragique hein, du Congo belge, du Congo donc sous domination exclusive de Léopold, en revenant sur les circonstances hein, qui ont conduit à l'éclatement de ce scandale international. Tout d'abord, Léopold, il va donner des concessions à des sociétés privées qui vont aller exploiter directement le caoutchouc, qui, comme vous l'avez souligné, c'est pas le caoutchouc de culture, c'est pas les EVA qu'on plante comme on l'a fait, par exemple, au Vietnam. C'est aller dans la forêt et puis récolter le caoutchouc directement sur les lianes. Et pour ça, on va forcer les populations. Et comme vous l'avez dit, en prenant des otages, les familles, etc., et en déstructurant complètement la manière de vivre des villageois et des gens qui vivent au bord des fleuves ou dans la forêt. Et ce scandale va être dénoncé par un journaliste anglais.
Oui, Edmond Morel, effectivement, à partir de 1903-1904, lance une campagne internationale. Donc le scandale du Congo belge, enfin de ce qui n'est pas encore le Congo belge, mais l'État indépendant du Congo.
Oui, c'est curieux, il porte le nom d'État indépendant alors qu'il est sous la coupe.
Sur le plan international, et c'est un scandale épouvantable. Parce qu'effectivement, Léopold a des agents exploitants recruteurs qui confondent le pouvoir administratif avec le pouvoir économique, c'est-à-dire qu'en même temps, ils doivent administrer le territoire et surtout récolter le caoutchouc. Donc, ils ont toute latitude pour récolter le caoutchouc comme ils veulent. Et donc, des procédés, c'est par exemple de réquisitionner toutes les femmes, de les enfermer en attendant que les hommes aient rapporté des liens de caoutchouc. C'est exécuter des gens sans... pour les effrayer. Enfin, c'est quand ils refusent de récolter du caoutchouc, il y a une une reporter, une photographe belge qui était missionnaire et qui a fait des rapports là-dessus, donc tout ça a été connu à l'époque, montre des photos qui montrent les mains des jeunes exploitants africains coupés, puisqu'ils refusaient de récolter le caoutchouc. Donc c'est tout à fait épouvantable.
On donnait des primes aux miliciens qui étaient chargés donc
L'avancement des fonctionnaires, enfin, des agents coloniaux désignés par Léopold dépendait des résultats économiques et du caoutchouc qui était produit. C'est-à-dire il y avait confusion complètement des gens. Oui, c'était vraiment épouvantable.
Il y a eu des milliers de morts. Enfin, on a des chiffres absolument effrayants. Du bilan humain absolument mais vertigineux, enfin quand on
absolument tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc ça commence à se savoir et le ministère français veut démontrer que du côté français ça se passe beaucoup mieux. Seulement le malheur c'est que ça se passe pas mieux. Peut-être un peu moins pire, mais quand même très mal. Et j'ai donné cet exemple, qui n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres que j'ai trouvé dans les archives, de cet Africain exécuté avec un bâton de dynamite dans des conditions épouvantables.
Ce qui a été le point de départ donc de la mission qui a été confiée à
c'est une mission de l'Assemblée nationale qui, alors on cherche un chef prestigieux. Et ça va être Savonian Brazza. Savonian Brazza vient de prendre sa retraite. Il a été plus ou moins mis à la retraite parce que il était, disons, pour l'époque, c'était pas un monstre du tout, Brazza.
C'est un humaniste.
Une colonie à la France, mais avec des méthodes moins redoutables que celles de Léopold. Donc c'était quelqu'un de raisonnable, disons. Donc on pense qu'il a un grand prestige et que donc son prestige est garanti l'honnêteté de la mission d'une vingtaine de membres qu'on va envoyer à partir de mars 1905 jusqu'en septembre-octobre 1905 cette mission va parcourir l'ensemble de l'Afrique équatoriale, Gabon, Congo et Centrafrique, qui s'appelait à l'époque Ubangi-Chari, et donner beaucoup de rapports qui, malheureusement pour le gouvernement français, sont des rapports dans l'ensemble très négatifs. C'est pas tout à fait aussi épouvantable qu'au Congo belge, mais c'est pas beaucoup mieux. Parce qu'il y a énormément d'enquêtes orales auprès des populations et beaucoup de signalisations d'abus tout à fait excessifs, si bien que Brazza, assez vite, envoie un télégramme à son ministère en disant « Ben non, je ne peux pas vous faire le rapport positif que vous m'avez demandé parce qu'il se passe des choses épouvantables et donc le rapport va être négatif. » Les membres parcourent le pays pendant 3-4 mois. Brazza a exigé de chacun des membres qu'il donne un gros rapport sur la province qu'il a visitée. Et tout est rassemblé en septembre 1905 et embarqué pour la France. Seulement, malheureusement, Brazza, qui est très malade, meurt à Dakar, en l'escale de Dakar, en 1905. Il ne peut pas faire le rapport. Donc, les membres de la mission reviennent et remettent l'ensemble de leurs archives au ministère des colonies qui va chercher un personnage réputé de la naissance de diriger la rédaction du rapport, de ce fameux rapport, toujours le rapport que finalement j'étais supposé oublier. Ce rapport est rédigé par les membres du ministère entre octobre et décembre 1905. Il est évidemment très négatif parce qu'il y a beaucoup d'excès. Et le ministre est très ennuyeux. Là-dessus, il y a des très ennuyés par ce rapport. C'est pas du tout ce qu'il attendait. Puis il y a des changements de ministre. Finalement, ça traîne jusqu'en 1907. Et en 1906, le ministre, alors en activité des colonies, décide ce rapport ne sera pas publié. Donc le rapport disparaît Et on ne sait pas ce qu'il est venu. Alors moi, quand je faisais mes recherches d'archives à la fin du siècle dernier, j'ai retrouvé dans les archives ce qu'il était devenu, le rapport. Et il y a une note du directeur des affaires africaines du ministère des colonies, une note écrite au crayon, mais j'ai reconnu qui était l'auteur de cette note, c'était le directeur des affaires d'Afrique, qui dit 10 exemplaires de ce rapport imprimés par l'imprimerie nationale, 9 exemplaires dans le coffre-fort du ministère et le 10e pour le ministre. Et ce que j'ai retrouvé, c'est le 10e, le rapport pour le ministre, qui a été ensuite reversé, comme très normalement,
aux archives,
une fois que le ministre n'était plus en poste. Et les 9 autres, alors je ne sais pas du tout s'ils sont toujours dans le coffre-fort ou s'ils ont disparu depuis longtemps, mais en tous les cas, il n'existe plus qu'un seul rapport authentique que j'ai eu entre les mains, que j'ai fait photocopier, que j'ai eu finalement la chance de pouvoir publier en le commentant de tous les rapports qui sont aussi aux archives des 12 agents qui ont accompagné Brazza et qui ont décrit par le détail tout ce qui s'est venu. Si bien que c'était intéressant pour moi comme chercheuse, parce que je pouvais comparer le rapport officiel, qui est déjà très sévère, au rapport réel vu par les compagnons de Brazza. Et le rapport officiel est déjà atténué par rapport au rapport réel. C'est-à-dire que le rapport officiel dit tout est la faute des compagnies concessionnaires, c'est-à-dire compagnies privées, et l'État est absolument
hors de cause.
Hors de cause à l'État, alors qu'en fait, le commissaire général qui a succédé à Brazza au Congo, qui était Émile Gentil, était tout à fait au courant et
couvrait les agissements
des questions. Mais ça, c'est complètement effacé par le rapport. Oui. Ceci dit, le rapport est quand même très intéressant parce que il raconte toute une série d'exemples d'abus. Donc de ce côté-là, c'est très important. Simplement, il dit c'est pas la faute du ministère, c'est la faute des privés. Ça, c'était la version officielle. Toujours est-il que ce rapport n'est pas publié, que la dernière fois que, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un le réclame à l'époque, c'est en 1909, un article de l'Humanité, et qu'ensuite, on se dit, bon, il est perdu. Et il était perdu, et vous m'avez posé la question, est-ce qu'on savait la question? Alors, il y avait peu de personnes qui s'intéressaient à l'histoire de la... d'historiens, disons, professionnels qui s'intéressaient à l'histoire de la colonisation. Il y en avait de très bons, mais très peu nombreux. Et l'affaire du Congo était connue par le scandale belge, et disons pas du tout du côté français, parce que, précisément, le rapport n'a pas été publié, personne ne connaissait, sauf les 10 personnes qui ont participé à sa rédaction, personne ne savait ce qu'il y avait dedans. Et il y a eu un autre scandale à peu près dans le même temps en Centrafrique, également du côté français, qui a été complètement étouffé aussi, que j'avais aussi découvert dans les archives et pour laquelle j'avais eu la chance de rencontrer en 1966, c'était au début de mes propres recherches, un ancien agent français en Ubangui-Chari, qui était en poste en 1905.
Guy Bay, c'est ça.
En 1965, il avait plus de 80 ans, il avait près de 90 ans, et il m'a raconté un certain nombre de ce dont il avait été témoin, qui était tout à fait épouvantable, sur un autre scandale. Oui. C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup de scandales. Oui. Mais cet autre scandale avait été, lui, alors complètement étouffé. Il n'y avait pas de rapport. L'agent qu'il avait dénoncé avait été convoqué par le ministre des colonies, et il a pu me le raconter en 1966. Ça s'était passé en 1905-1906, puis il a pu me le raconter. Le ministre des colonies lui a dit, vous avez fait un travail merveilleux, c'est très important, on va tout changer, on vous promet. Mais en attendant, je vous demande quelque chose, parce que à cause de vos ambitions sur le Congo belge, enfin bref, il ne faut pas que ça se fasse, vous me donnez votre parole d'honneur que vous n'en parlerez pas. Donc il a tenu sa parole d'honneur jusqu'à ce qu'il me rencontre, parce qu'il a vu une jeune historienne 60 ans après, il s'est dit, bon, ben, là, c'est levé, je peux parler à une jeune historienne, ça devait un petit peu... Et sa mort était prochaine, il a dû avoir envie de se décharger de ce secret avant de mourir, et donc il m'en a parlé.
On peut rappeler son nom, hein, il s'appelait Guibet, hein, c'est bien ça ?
Gaston Guibet. Gaston Guibet, et cette honnêteté et ses attitudes remarquables l'a poursuivi malheureusement toute sa vie, parce qu'il n'a pas eu de promotion, il a eu très difficilement ses promotions parce que à l'époque il se disait que il n'avait pas été correct avec le ministère des colonies et qu'il avait dit des choses qu'il fallait pas dire, et ça on le trouve dans son dossier de retraite qui était précisément en 1936 au moment du Front populaire, qui l'a, il y a une lettre dans son dossier qui explique que on a raconté au ministre, à Léon Blum, qu'en fait, qu'il avait été très bien et il a été promu gouverneur à titre posthume.
Enfin, exceptionnel, après sa retraite. À sa retraite.
Après sa retraite, voilà. Oui. Donc, il n'avait jamais eu la promotion parce qu'il y avait ce dossier qui le poursuivait et qui le poursuivait comme négatif à l'époque. C'est ça qui est intéressant.
Nous allons faire, si vous permettez, Madame Kokrivedrovitch, nous allons faire une pause musicale et on se retrouve, vous restez bien entendu avec nous au téléphone et on va se retrouver dans quelques instants après la première pause musicale. A tout de suite.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dignes de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix d'une image de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états. On vient d'entendre avec beaucoup d'émotion la voix de Patrice Lumumba le 30 juin 1960 dans le tout début de son discours à l'occasion de l'indépendance proclamée donc le 30 juin 1960 du Congo belge, juste avant la chanson qui a accompagné cette indépendance, indépendance Tchatcha, qui est devenue un hymne africain hein, des indépendances. Patrice Lumumba donc qui va être l'éphémère Premier ministre du Congo nouvellement indépendant et qui va être assassiné le 17 janvier 1961 à l'instigation entre autres des Belges, enfin d'une partie en tout cas de l'armée belge. Madame Kokri-Vidrovitch, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Sur cette histoire donc de dramatique de Lumumba, donc si on peut en dire deux mots, ce dirigeant congolais africain qui est devenu un symbole hein, en Afrique noire aujourd'hui. Vous avez peut-être deux ou trois choses à nous dire sur cette tragique histoire de l'indépendance du Congo belge qui a été malheureusement ternie par cet assassinat.
Patrice Lumumba était un jeune politique qui voulait l'indépendance de son pays et qui a été évidemment complètement incompris des autorités, en particulier des autorités belges et des autres autorités internationales en 1960. Il y a eu valeur des indépendances, mais difficilement accepté par les puissances coloniale, et le discours de Lumumba, qui est d'une extraordinaire modernité pour son époque, 1960, à l'époque, était une bombe insupportable pour le roi des Belges qui assistait à la fête de l'indépendance, entre autres, et ce discours a signé la condamnation à mort de Lumumba par probablement un complot, un accord entre les autorités belges, les autorités américaines et d'autres, bref.
Et les divisions internes au Congo, le Katanga, toutes les scissions
oui, absolument,
internes.
Oui, non, oui. Donc il a été enlevé, emmené au Katanga, exécuté dans des conditions tout à fait détestables et accusé évidemment à l'époque par les puissances occidentales, en particulier par les États-Unis, de communisme, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était un libéral, disons aujourd'hui, un libéral de gauche qui voulait l'indépendance de son pays.
Et l'unité africaine, il militait aussi.
Il n'était pas du tout révolutionnaire, Lumumba. Il était farouchement décidé à obtenir l'indépendance. Mais c'est tout, c'est ça qui était inacceptable pour le roi des Belges, qui s'est senti insulté par ce discours qui n'avait pas été prévu et que Lumumba a improvisé le jour de l'indépendance. Le discours est merveilleux et on peut l'écouter d'ailleurs librement sur Internet.
Oui, tout à fait, oui. Pour en revenir au Congo donc français, vous avez tout à l'heure parlé du rôle de la presse française et de l'opinion publique en France, avec le scandale qui éclate donc autour de cette terrible et malheureuse affaire de l'exécution, la dynamite d'un prisonnier congolais par deux fonctionnaires coloniaux français, dont on peut rappeler les noms, hein, c'est Toké et Go, hein, c'est ça. Hein. J'étais très très surpris en lisant dans votre dans l'ouvrage l'âge de l'un des deux protagonistes. Je crois que c'est Go, il a 23 ans, il est tout jeune, il sort tout frais et moulu de l'école coloniale et on l'envoie au fin fond de la forêt. Est-ce que souligne votre, le rapport, est-ce que vous dites aussi en présentation de ce rapport, c'est que l'administration coloniale est extrêmement démunie, il y a très peu de moyens finalement.
Il y a très peu de moyens, l'école coloniale est en train d'être créée, et Guy Bey, dont on parlait tout à l'heure, reçoit la troisième promotion en 1903, quelque chose comme ça. Donc, c'est le tout début, il n'y a pas de personnel autre que recruté par petites annonces ou à la voix comme se pousse. Et ce sont souvent effectivement de très jeunes gens, un peu paumés, qui ne savent pas quoi faire dans la vie et qui se disent qu'ils vont donner une grande aventure dans des pays inconnus. Il y a un peu de tout. Il y a des courageux et ambitieux comme Brazza, et puis il y a des mauvais garçons aussi. Il y a des alcooliques. Enfin, il y a de tout dans le personnel colonial du début du XXe siècle.
Je crois que c'est Toké, donc l'un des deux fonctionnaires là qui fait cette saloperie, on peut le dire comme ça, et qui ensuite va se repentir peut-être le mot un peu fort, mais qui va quand même expliquer les circonstances et les conditions qui l'ont amené à être livré à lui-même finalement, et puis il va, je crois, expliquer dans quelles conditions il se trouvait à ce moment-là.
Ben oui, effectivement, il était tout jeune, il était paumé au milieu de la forêt, il avait tous les pouvoirs, pas de contrôle, enfin bref, toutes les conditions possibles pour qu'un jeune homme qui n'a pas beaucoup de principes ou qui est naïf fasse toutes les bêtises possibles et imaginables jusqu'au crime en pensant, il faut penser aussi au racisme de la fin du 19e siècle qui était très important, c'est-à-dire que pour l'opinion française, les Africains, les Noirs, c'était des gens inférieurs et au bas de l'échelle et qui ne valaient pas grand-chose et qu'on pouvait tuer comme ça parce que ça n'avait pas grande importance. On le trouve beaucoup ça dans les commentaires, y compris des agents coloniaux que j'ai pu consulter dans les années 1910, avant la Première Guerre mondiale. On n'imagine pas encore, on n'imagine pas à quel point c'était du non civilisé. Donc avec le non civilisé, on pouvait faire ce qu'on voulait parce que n'importe comment ils comprenaient pas, ils savaient pas, etc. Donc c'était un mépris formidable, une méconnaissance formidable. Alors évidemment, il y avait quelques personnes qui avaient compris qu'on pouvait s'y intéresser. Guy Bey, dont je parlais tout à l'heure, était justement, il avait su faire parler les Africains et les mettre en confiance, mais c'était tout à fait la minorité de ces jeunes gens un peu incontrôlés, incontrôlables, qui se trouvaient de façon très limitée, très isolée, dans des pays très difficiles, effectivement. Les abus ont été... c'était pas des abus, c'était monnaie courante.
Oui. Vous dites dans l'explication dans les notes que vous mettez en rapport, enfin en parallèle à ce rapport, qu'on accorde pratiquement aucun intérêt, aucune importance aux témoignages donc des Africains concernant leurs conditions d'exploitation qui sont féroces. Il y a plusieurs témoignages qui sont recueillis donc par les coéquipiers de Brazza, en particulier l'un d'entre eux, Waro des Ruisseaux, je crois, qui est vraiment une personne intègre, honnête, et qui va dénoncer la manière dont l'administrateur colonial gentil va lui mettre des bâtons dans les roues, va l'empêcher d'enquêter parce que sur place on va tout faire pour essayer de contrer le travail de l'équipe et de la mission Brazza. Et il rapporte donc des témoignages d'Africains qui expliquent dans quelles conditions ils sont exploités, comment on prend en otage les femmes et les enfants pour forcer les hommes à aller en forêt récolter le latex, qu'il faut qu'ils rapportent tel tonnage de latex et au cours d'une de ces manœuvres de coercition, donc on va emprisonner une soixantaine de femmes qui vont être recluses dans une case, hein, un grand nombre d'entre elles vont mourir littéralement de mauvais traitements. Je crois que sur 65 femmes otages, il va y avoir une quarantaine de décès liés aux conditions de détention de ces femmes. Et ça va être un des scandales qui sera dénoncé sur place par l'équipe de Brazza.
Oui, c'est Brazza qui dénonce et qui informe Paris de cet événement qui, en fait, a dû être renouvelé un certain nombre de fois. On a d'autres exemples. Et aussi un exemple qui est raconté par Brazza qu'il a réussi à éviter parce que, précisément, on sait qu'il arrive à ce moment-là et donc on va délivrer les femmes et les renvoyer chez elles alors qu'elles auraient probablement subi le même sort. Enfin, on n'imagine pas le non-droit total qui était dans ces régions, qui était considéré par les Occidentaux comme sauvage, inéducable, etc., etc. Il y avait une très grande incompréhension. Et ce que les inspecteurs, les collaborateurs de Brazza ont fait, c'est finalement, ils étaient anthropologues avant la lettre, c'est-à-dire qu'ils ont interrogé les gens, des gens qui ne savaient pas écrire, évidemment, puisqu'il n'y avait pas d'école. Et donc, les seuls témoignages qu'ils pouvaient avoir étaient des témoignages oraux. Ils en ont eu beaucoup. C'est très intéressant dans ce rapport, tous ces témoignages oraux, qui sont en général assez épouvantables. Et l'argumentaire du ministère des colonies par rapport à tous ces témoignages oraux était un argumentaire de type occidental. Il n'y a pas de trace écrite, donc ça ne vaut pas. Oui. Parce qu'un témoignage oral, il peut l'avoir inventé. Donc nous n'en tenons pas compte. Alors à partir du moment où il ne tenait pas compte des témoignages oraux, il ne tenait compte de rien.
Oui.
Sauf de l'honneur des agents coloniaux dont il fallait dire qu'il n'y était pour rien. Donc c'était vraiment deux machines complètement opposé.
On lit à plusieurs reprises dans le rapport des lettres, des échanges d'arguments du côté, on va dire, des rapporteurs de la mission et puis de l'administrateur colonial, donc Gentil. Et on lui reproche tel ou tel fait. On lui reproche de ne pas avoir, de ne pas être intervenu justement pour empêcher ces crimes, hein, pour empêcher les prises d'otages, pour empêcher le fait d'emprisonner les femmes dans des conditions terribles, sans justification, et lui se défausse. Il y a vraiment des... On voit les deux côtés, l'accusation et la défense, il trouve toujours, cet administrateur colonial, il trouve toujours la manière de se disculper ou de faire porter le chapeau, la responsabilité
il n'était pas au courant, ou bien...
Alors, il était contre ça, et de temps en temps, effectivement, il intervient, et de temps en temps, c'est ça qui est aussi ambigu et ambivalent, parce qu'il peut avoir par moment aussi une intervention plutôt bénéfique pour certaines, dans certaines situations. Donc la situation est très complexe, mais on voit bien la manière dont, et c'est très vivant, enfin on voit vraiment les débats qui traversent à ce moment-là les rapporteurs et pour arriver aux conclusions.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi ce rapport aussi est très intéressant, parce qu'il est révélateur de ce qui se passait vraiment sur le terrain. Et alors, il y a aussi le témoignage, il y a un témoignage assez, assez long, de plusieurs pages, de 10 jeunes Gabonais. Donc, c'est signé 10 jeunes Gabonais qui sont lettrés et qui ont écrit pour raconter toujours les mêmes choses dont on parle, les abus, etc., et qui sont dans la documentation aussi. Donc ça, il y avait quand même quelques témoignages écrits dont j'aurais pu tenir compte un peu plus que ça.
Il faudrait qu'on s'arrête maintenant sur un aspect très particulier de cette colonisation, c'est le système des concessions. Et je crois que vous avez consacré un ouvrage entier sur les concessions au Congo. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agissait exactement ?
Ben écoutez, c'était le sujet de ma thèse d'État. Justement, j'ai passé 10 ans sur cette question pour l'ensemble de l'Afrique équatoriale entre 1900 et 1930, et au-delà de 1930 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Le problème pour les puissances coloniales de l'époque, sauf pour le roi des Belges, parce que le roi des Belges, pour le Congo belge, d'abord l'État indépendant du Congo, comme il s'appelait, avait une fortune personnelle importante. Et il a investi lui-même dans l'exploitation du caoutchouc. Donc il a, d'une certaine façon, il a payé avec son trésor, le roi, la construction du chemin de fer belge au Congo. Seulement l'État français, il n'était pas riche comme le roi du Congo, enfin comme le roi des Belges, et donc il fallait que l'Assemblée vote le budget, et l'Assemblée, à la fin du 19e siècle, trouvait qu'il y avait beaucoup de choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus coûteuses que ces aventures coloniales qu'il comprenait mal, donc refusait le financement. La plus grande partie du financement de ces affaires coloniales.
Si vous permettez d'intervenir...
Il fallait trouver de l'argent.
Oui, si vous permettez...
l'idée de Brazza, et ça, c'était pas une bonne idée, en réalité, ça avait été, effectivement, mais puisque l'État ne veut pas payer, puisque vous avez des commerçants qui sont très intéressés pour la production du caoutchouc, eh bien, on va créer des sociétés privées, et ces sociétés privées, on leur donne le pouvoir
d'exploiter,
d'organiser la production du caoutchouc moyennant des très grandes concessions. Alors, la concession n'est pas une propriété, la concession est pour 30 ans, mais c'est des concessions immenses, des concessions qui ont entre plusieurs dizaines de kilomètres carrés et plusieurs centaines de kilomètres carrés, ça dépend desquels. Il y en a eu 40 qui se sont partagés, qui ont été, disons, l'ensemble de l'Afrique équatoriale française a été partagé en 40 concessions, pratiquement tout le territoire, sauf les environs des deux grandes villes, Libreville et Brazzaville. Et donc ces concessions privées sont supposées investir dans les infrastructures nécessaires. Alors il fallait tout, il fallait des pistes, il fallait des ponts, parce qu'il faut brancher les rivières, il fallait des transports, et tout ce que l'État ne voulait pas payer. Donc les compagnies concessionnaires étaient supposées investir dans des infrastructures de façon à exploiter le caoutchouc, les deux grands produits de l'époque, qui étaient le caoutchouc dont on a déjà parlé, et l'ivoire. Alors le caoutchouc, on en a parlé, c'était les Africains qui étaient envoyés en forêt avec des coups de fusil pour les obliger à le faire. Et l'ivoire, c'était les trésors en ivoire thésaurisés par les chefs locaux. Donc il suffisait de s'emparer du trésor des chefs pour le commercialiser. Et les compagnies, une quarantaine de sociétés concessionnaires, dites concessions pour 30 ans, elles n'ont pas investi, justement, contrairement à ce que espérait l'État. Parce que c'était des compagnies de commerce qu'il fallait, c'est la rentabilité. Et la rentabilité voulait dire que ces sociétés dépensaient le moins possible pour avoir des revenus commerciaux les plus importants, disons, sur le dos des Africains. Et donc, ça a été un régime épouvantable, en fait. Un régime si épouvantable qu'assez rapidement, le gouvernement français s'aperçoit que c'est tout à fait catastrophique. Seulement, les cahiers des charges de ces grandes sociétés ont été rédigés de façon maladroite et beaucoup trop naïve. Et c'est très difficile de se débarrasser de ces sociétés sans leur donner des contreparties, en particulier des terres en toute propriété. Et alors, je vous donne un exemple. La société du Haut-Ogooué, qui est une société concessionnaire, a mis tellement longtemps à liquider ses affaires après les années 1930 que les terres qui étaient prévues pour les dédommager en toute propriété cette fois-ci et pas en concession, ne lui ont été attribuées qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et ces terres, ce qui intéressait à ce moment-là la SHO, Société du Haut-Ogooué, c'était plus le caoutchouc, c'était le bois d'Okoumé. Et le bois d'Okoumé avait une importance énorme pour la construction du contreplaqué. Et le bois d'Okoumé n'existait qu'au Gabon. N'existe qu'au Gabon, pratiquement. La SHO avait, à ce moment-là, après la Deuxième Guerre mondiale, une petite flotte aérienne. Elle survolait les forêts. Elle repérait là où il y avait du feuillage de coupé et demandait en toute propriété la propriété justement de l'endroit où il y avait ce qu'on appelait des gisements de coupé. Et c'est comme ça que ce système possessionnaire s'est prolongé après la fin des concessions. Enfin, le gouvernement a essayé de réduire les concessions dès 1911. Il les réduit et les regroupe dans une grande concession. Alors ça a été encore plus catastrophique que la précédente, parce que cette grande concession qui s'appelle la Compagnie Forestière Sanga ou Bangui, qui regroupe au moins 6 ou 7 anciennes concessions dans le même, est une concession qui a été dramatique pour l'exploitation du caoutchouc et d'ivoire, et elle est décrite en particulier sous le nom de Compagnie Porturière, par Louis-Ferdinand Céline.
Oui, dans Voyage au bout de la nuit, oui.
Voilà. Parce qu'il a été employé de cette concession au Cameroun pendant un certain nombre d'années. Oui. Donc, la solution était quasiment pire que le mal, et ceci s'est prolongé jusque dans les années 30. Dans les années 30, finalement, puisque c'était la fin des concessions, qui commence en 1900, c'était des concessions trentenaires, c'est donc la distribution de propriétés privées, comme foncières, comme j'ai raconté tout à l'heure, et puis la dispersion de ces compagnies. Mais ces compagnies ont été un facteur très important de l'appauvrissement, ou disons du non-développement, de l'ensemble du pays, parce que ces compagnies n'avaient aucun intérêt à développer le pays.
Il y a un autre aspect aussi qui est lié à ce système concessionnaire et qui touche directement les habitants, les habitants africains, les habitants congolais, donc le long des rivières. Les rivières sont les principales voies de communication et de transport de marchandises. Hein. C'est par les fleuves que se font en bateau les transports de marchandises. Mais il y a des moments où les bateaux ne passent pas. Il y a des rapides, il y a des obstacles naturels et on va avoir recours à une main-d'œuvre humaine, à ce qu'on appelle le portage. Et c'est quelque chose d'absolument épouvantable aussi, le portage.
Ah oui, le portage est épouvantable parce que les hommes étaient supposés porter sur la tête des charges de 30 kilos. Alors faire des étapes de 30 kilomètres avec 30 kilos sur la tête, ça doit, et ça pendant 10 jours ou davantage, c'était catastrophique. Et ça a fait des ravages, en particulier dans le Bas-Congo, parce que le Bas-Congo, la partie inférieure du fleuve, n'est pas navigable, il y a des rapides. Donc, entre la côte et Brazzaville, c'était le portage. Et du côté belge, Léopold, comme j'ai dit tout à l'heure, avait une fortune personnelle qui lui a permis de financer la construction d'un chemin de fer entre la côte et Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui, qui était le seul moyen d'éviter le portage. Mais côté français, la voie ferrée n'a été construite avec, d'une façon dramatique aussi, avec énormément de pertes humaines, entre 1920 et 1930. Et avant, c'était le portage.
C'est le fameux Congo-Océan, ce train qui a laissé dans les mémoires africaines une marque atroce, puisqu'on disait une traverse, un mort. Hein. C'était ça, à peu près.
C'est ça. Hein. Et un géographe, Gilles Sauter, a travaillé sur les archives du chemin de fer il y a une quarantaine d'années déjà. Il a fait un gros article très intéressant là-dessus. Il a calculé que finalement, il y avait probablement une 20 000 morts 20 000 pour morts, la construction oui. du chemin de fer français.
Oui. Le portage, En plus de faire des victimes directes, parce que les conditions de travail, c'était quasiment du travail forcé. Hein, c'était, on allait chercher les gens qui ne voulaient pas. Enfin, les Africains ne souhaitaient pas faire ce portage. Ils savaient que c'était un travail extrêmement dangereux, difficile. Et il y a des descriptions qui sont terribles. Je crois que c'est André Gide, hein, dans son livre Voyage au Congo, qui décrit comment les villages qui sont abandonnés, qui décrit la façon dont les porteurs se retrouvent dénutris, maigris, affaiblis, malades, il y a des morts régulièrement. Et pour éviter cette situation, les gens vont fuir les villages. Et pendant le moment où ils sont obligés de porter, il n'y a pas d'agriculture. Donc ça va aggraver la situation de toute une population qui va se retrouver de ce fait démunie simplement parce qu'ils ne peuvent plus cultiver la terre puisqu'ils sont forcés de travailler pour les concessions.
Oui, vous avez très bien résumé la situation. Effectivement, André Gide, qui traverse le pays en 1926, et qui, à l'époque, n'était pas particulièrement... Il faisait un voyage, il aimait les grands voyages, il aimait les aventures, donc il partait au Congo pour découvrir des pays nouveaux, et il décrit d'ailleurs dans Voyage au Congo qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire le procès de cette exploitation, mais qu'il a été obligé de le faire parce que c'était tellement épouvantable qu'il ne pouvait pas se taire. Mais ça l'ennuie d'une certaine façon. Il dit, je suis obligé de le faire, mais je ne m'y attendais pas. Et,
il est choqué, oui.
C'est effrayant. Et Voyage au Congo est très très intéressant pour ça, parce qu'il décrit la situation qui finalement la guerre changée. On se trouve en 1926-1927. Et ensuite, il va y avoir d'autres voyageurs qui vont décrire les situations au Congo dans les années 1930. Et, Albert Londres, absolument. Albert Londres, qui était un grand reporter, a fait un grand reportage justement sur l'exploitation en Afrique équatoriale et sur le Congo-Océan. Et donc, périodiquement, vous avez des observateurs qui sont allés sur le terrain et qui dénoncent ce qui se passe. Et ça provoque chaque fois en France des campagnes journalistiques, des grandes critiques. Ça dure un an ou deux dans certains journaux, et puis après ça disparaît jusqu'au prochain scandale qui va à nouveau provoquer une campagne, qui va à nouveau obtenir du gouvernement quelques améliorations, mais pas beaucoup, et surtout beaucoup de promesses. Et puis on a l'impression que tous les 10 ans, ça recommence, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ça va durer jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, en fait.
Nous allons faire, si vous le permettez, Madame Kukrivodrovitch, une deuxième pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Vous restez bien entendu avec nous au téléphone et on vous reprend à l'antenne juste après la pause musicale.
Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron pour jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Les citrons c'est les négros, tous les bronzés d'Afrique, Sénégal, Mauritanie, au Volta, Togo, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée, Bénin, Maroc, Algérie, Cameroun et tutti quanti, Cameroun et tutti quanti. Les colons sont partis avec que des flonflons, des discours solennels, des bénédictions. Chaque peuple, c'est normal, dispose de lui-même et doit s'épanouir dans l'harmonie. Une fois qu'on l'a saigné aux quatre veines, on l'a bien ratissé et qu'on lui a tout pris. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite de noirs bien blanchis. Le monde blanc rigole, les nouveaux c'est bizarre, sont pires que les anciens, c'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacrer empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que les terres produisent pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Oh là, dis donc, là, dis donc. Après tout, c'est pas grave, les colons sont partis. Que l'Afrique se démerde, que les paysans crèvent. Les colons sont partis avec dans leurs bagages quelques bateaux d'esclaves pour pas perdre la main. Quelques bateaux d'esclaves pour balayer les rues. Ils se ressemblent tous avec leur passe-montagne. Ils ont froid à la peau et encore plus au cœur. Là-bas c'est la famine et ici la misère. Et comme il faut parfois manger et puis dormir dans des foyers taudis, on vit dans le sordide. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Un jour la crise nous envahit aussi. On les renvoie chez eux, ils seront plus heureux. On leur donne un pourboire, faut être libéral. Et quant à ceux qui râlent, un bon coup de pied au cul. Vous comprenez monsieur, c'est quand même pas normal. Ils nous bouffent notre pain, ils reluquent nos femmes. Qu'ils retournent faire les singes dans leur cocotier. Tous nos bons nègres à nous, qu'on a si bien soignés. Et puis ce qui est certain, c'est qu'un rien les amuse. Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on apprécie le citron, on peut jeter la peau. Mamadou Madi, Mamadou Madi, on apprécie le citron, on peut jeter la peau.
C'était donc François Béranger qui interprétait Mamadou Madi. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la voix son d'une image de la Fédération anarchiste, la société dans sous ses états. Aujourd'hui avec Catherine Kokri-Vidrovitch, historienne spécialiste de l'histoire de l'Afrique et de la colonisation de l'Afrique noire. Nous discutons du rapport Brazzam. Juste avant la pause musicale, Madame Kokri-Vidrovitch, nous parlions donc de ces dénonciations régulières dans la presse des scandales hein, qui surgissait à intervalles réguliers dans les colonies.
Oui.
Dans le livre, donc le rapport Brazza, on parle à un moment donné, vous parlez du journal L'Humanité, donc c'est L'Humanité de Jean Jaurès, hein, c'est avant oui. le Parti communiste, hein,
oui.
Avec une série d'articles qui portent sur la situation et qui demandent régulièrement des comptes hein, à propos de ce rapport, qui revient régulièrement à la charge, et les titres des articles, c'est la barbarie coloniale. Il y a des débats, on est à la fois surpris, il n'y a pas de consensus finalement en France à propos de la colonisation. Vous nous avez dit que l'Assemblée française à l'époque, à la fin du XIXe siècle, n'était pas très enthousiaste à l'idée d'investir dans l'expédition coloniale puisque ça coûtait cher.
Oui, absolument. Donc le parti colonial n'était pas nécessairement majoritaire, mais il avait une voix importante et qui s'est fait entendre à la fin du 19e siècle. Il y a une à propos d'Indochine qui a beaucoup fait parler aussi en France à la fin du 19e siècle de la conquête de l'Indochine. Il y a eu un dialogue très fameux entre entre deux députés, Clémenceau et
Ferry.
Jules Ferry, oui. Jules Ferry défendant la thèse de la conquête pour le bien des peuples, c'est-à-dire convertir, civiliser, etc. Et le devoir des Français de civiliser les sauvages. Et Clémenceau disant de façon très claire dans ses discours à l'Assemblée que c'était scandaleux de vouloir coloniser. Soumettre par la force des gens pour la colonisation, ça c'était, et ça a été publié, c'était, mais disons que progressivement ils deviennent de plus en plus minoritaires par rapport au contexte international, que la Première Guerre mondiale fait un peu oublier ça, et que la période paradoxalement la plus coloniale de la France, ça va être l'entre-deux-guerres parce que c'est le moment où vous avez un repli économique, vous avez la Grande Dépression des années 30, et comment essayer de remédier à ce repli économique, les colonies. Et les Français, le gouvernement français a beaucoup joué là-dessus pour, avec l'exposition coloniale internationale de 1931, qui a eu un retentissement formidable dans l'opinion publique. Donc la partie... Le moment le plus colonial de l'opinion publique, c'est effectivement les années 30, et ça va durer jusqu'aux années 50 et jusqu'aux indépendances, qui sont très mal acceptés par l'opinion française en général, précisément à cause de cette histoire coloniale magnifiée. D'une part par l'exposition coloniale de 1930, et ensuite énormément par le gouvernement de Pétain. Il y a eu un train colonial pendant la Deuxième Guerre mondiale pour faire la propagande sur l'importance des colonies françaises, importance d'autant plus grande pour Pétain que la France avait perdu le pouvoir, puisque le pouvoir était aux Allemands, aux Hitlériens. Et par conséquent, il fallait montrer que Pétain, dans le protocole de l'armistice, avait obtenu l'expression que la France gardait son autorité sur les colonies, ce qui était tout à fait vain en réalité, parce que la production des colonies s'en allait pour l'Allemagne. Mais avec l'accord des vichistes, évidemment. Mais il y avait une espèce de propagande de la part de Vichy, de dire nous sommes encore indépendants puisque nous avons les colonies et que c'est nous qui les contrôlons. Ce qui était de moins en moins vrai, d'autant plus qu'un certain nombre de colonies est en train de faire sécession pour se rallier à De Gaulle.
Mais cette la capitale de la France libre
est très importante pour la France jusqu'au dernier moment.
Rappelons que Brazzaville avait été le point de départ de la France libre.
Oui, absolument. Et Brazzaville était la capitale française de Gaulle. Il n'y avait évidemment pas Paris, il n'y avait pas Bordeaux, tout ça était aux Allemands. Donc, où trouver la capitale de la France libre? On l'a trouvée à Brazzaville parce que le gouverneur de Lubangui-Chari, Félix Eboué, qui était d'origine antillaise, s'est déclaré très vite pour De Gaulle dès 1940, et ça a été fondamental dans la reconquête par l'armée, en particulier la remontée française depuis Brazzaville et le Cameroun jusqu'en Afrique du Nord et en Italie pour la reconquête de la métropole.
Tout récemment,
Brazzaville a joué un rôle fondamental pour les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier pour De Gaulle.
Tout récemment, dans l'actualité politique française, il y a eu à nouveau le retour de ce serpent de mer dont on n'a toujours pas fini de se débarrasser sur l'histoire coloniale française, avec cette polémique suscitée par l'intervention d'un journaliste Apathy, Jean-Michel Apathy, qui sur une chaîne de radio a qualifié donc les crimes commis par les armées de conquête coloniale française en Algérie au XIXe siècle de doradour sur glane, ce qui a provoqué une tempête médiatique comme on en voit régulièrement et malheureusement un peu trop souvent. Jean-Michel Apathy a été mis à pied donc de la station de radio pour laquelle il travaillait, une petite concurrente de Radio Libertaire. C'est un trait d'humour, pardon. Et il a courageusement refusé de retourner après cette mise à pied en disant que s'il reprenait l'antenne, c'est qu'il donnerait raison à ses contradicteurs, et il est resté ferme sur ses positions qu'on peut partager avec lui, hein, pour une fois que je défends un journaliste qui ne fait pas du tout partie de notre bord politique. Mais voilà, cette actualité revient sans cesse. Quel est votre regard d'historienne de la colonisation sur cette... cette polémique.
De l'opinion française, je dirais, pour simplifier, n'est pas décolonisée. Les Français n'arrivent pas, une bonne partie de l'opinion française n'arrive pas à se débarrasser de ce préjugé répété pendant des décennies de la grandeur de la France par son empire colonial. Et donc les regrets, les nostalgies de l'empire colonial continuent à être réels en France. On le voit en particulier avec les problèmes insolubles côté français par rapport à l'Algérie. Mais d'une façon générale, disons pour simplifier que la décolonisation britannique a été à peu près dans les mêmes temps et dans les mêmes moments que la décolonisation française, mais les Britanniques en ont pris la partie beaucoup plus que les Français. Les Britanniques ont le souvenir de leur grand empire colonial, c'est fini, tandis que pour les Français, c'est toujours pas fini. Et ça a même rééclaté très fort au début du 21e siècle, dans les années 2001-2010, parce qu'à ce moment-là, vous avez une espèce de sursaut des partisans du colonialisme français qui ont démultiplié les publications, en particulier des historiens. Il y a des historiens qui sont pour la colonisation, des historiens qui sont contre la colonisation, comme tout citoyen a le droit d'avoir ses opinions, même si elles sont un peu, quelque peu dépassées. Mais dans les années 2000-2010, vous avez au moins une dizaine d'ouvrages à la gloire de l'épopée coloniale française. Et à tel point que ça m'avait fâché et que j'avais fait même de mon côté un petit historique. Des lois en particulier, des lois votées à ce moment-là. Vous avez une loi en 2005 sur les bienfaits de la colonisation en Afrique du Nord qui a été obligée d'être supprimée. Mais comme l'Assemblée ne voulait pas la supprimer, c'est Chirac, le président Chirac, qui avait décidé par un tour de passe-passe de la faire supprimer, la loi. Mais 2005, parler des bienfaits de la colonisation française à l'Assemblée, ça paraît quand même énorme aujourd'hui.
Et c'est
en 2005, c'était pas énorme du tout.
C'est à cette occasion que vous et quelques autres historiens, dont Gérard Noriel, que nous avions accueilli ici, et je crois aussi Gilles Manceron, avec qui nous avons fait une émission aussi ici, vous avez lancé le comité de vigilance sur les usages de l'histoire.
Absolument, parce que il y avait eu cet article glissé dans une loi sur l'Afrique du Nord, autant que je me souvienne, qui était j'ai un peu oublié maintenant, mais c'était à la gloire de la colonisation française.
Il s'agissait d'introduire dans l'enseignement de l'histoire auprès des élèves du secondaire, oui, le rôle bénéfique de la France dans l'économie.
Le rôle positif de la colonisation.
Voilà, c'est ça, le rôle positif.
On a été de petits groupes de spécialistes, en particulier d'histoire de la colonisation. Nous avons été complètement scandalisés. Et il y a eu cette initiative sur le comité d'abord pour faire supprimer cet article de la loi. Et ce qui était le problème en 2005, c'est que l'Assemblée était pour cette loi. C'est-à-dire que pour supprimer l'article, il fallait une intervention du président de la République. Je ne sais plus ce qu'il avait fait. Enfin, il avait trouvé un truc pour supprimer la phrase, en tous les cas, qui avait scandalisé donc une minorité à la Chambre. Et ça, c'était dans les années 2000-2010. Ça s'est passé après 2010. Donc, on a commencé à admettre d'une façon non passionnelle pour un certain nombre de spécialistes l'histoire de la colonisation française. Mais c'est très difficile en France, effectivement.
Un des arguments que vous aviez avancé à l'époque dans ce comité, c'était de dire que ce n'est pas au gouvernement de décider de l'enseignement de l'histoire, du contenu de l'enseignement de l'histoire.
Ah oui, absolument. Ça, c'était effectivement une décision de la Chambre qui était absolument scandaleuse. C'est aux spécialistes d'histoire de décider ce qu'ils vont enseigner en histoire. C'est pas au gouvernement, quel qu'il soit. Parce que sinon, vous avez une interférence entre la politique et le savoir scientifique qui est supposé être, qui n'est pas, mais qui est supposé quand même vouloir être aussi indépendant que possible. Donc, ce comité de
vigilance, oui.
De vigilance sur les usages publics de l'histoire, il a été très important et il reste important parce que tout récemment, vous avez eu un ouvrage. J'ai un peu oublié les auteurs, c'est pas vieux, mais c'est trois auteurs qui ont fait tout un livre sur Vichy pour dire que Vichy le gouvernement de Vichy avait protégé les enfants juifs, ce qui est parfaitement faux, et qui a été démontré par les historiens, c'est parfaitement faux.
C'est une thèse qui avait été reprise par Zemmour, entre autres, oui.
Oui, par Zemmour et d'autres. Et le comité de vigilance de l'histoire a repris le compte-rendu de l'ouvrage qui critique cette position, évidemment, très justement. Et les auteurs de l'ouvrage en question ont porté plainte, non pas contre l'article de compte-rendu qui est très précis et très long, qui est paru dans la revue historique, mais dans le petit bulletin du comité de vigilance, parce que, d'une certaine façon, c'est beaucoup plus commode pour eux de porter plainte contre une petite société qui n'a pas énormément de diffusion et pas contre le CNRS. Donc, c'est toujours vivace. Alors là, c'était sur Vichy, mais ça touche très près aussi l'histoire de la colonisation.
Alors, on trouve sur Internet, il suffit de chercher sur un moteur de recherche CVUH, et puis on trouve le site sur lequel
tout le détail de cette affaire par rapport de l'histoire du CVUH qui est une petite société parce que elle représente des historiens professionnels scandalisé par ce genre de choses, mais qui a son importance en particulier dans le domaine de l'enseignement et du savoir.
Oui, j'encourage tous nos auditeurs et auditrices à se rendre sur le site du CVUH afin de lire tout votre argumentaire et d'avoir les documents pour cela. Est-ce que vous auriez, Madame Kokri-Votrovitch, un ou deux conseils de lecture sur le colonialisme, la colonisation française en Afrique ou d'autres sur cette période de l'histoire à donner à nos auditeurs et auditrices?
Mais écoutez, à la suite de ces événements, de ces polémiques des années de 2000, j'avais justement écrit un peu à chaud un ouvrage, mais il faudrait que je retrouve le titre là maintenant, sur parlant des aspects politiques des controverses coloniales, en fait. Parce que c'était très politique au début des années 2000. Et c'était, d'une certaine façon, la droite, pour simplifier, la droite pour la colonisation, contre la gauche, contre la colonisation. Et ça reste toujours important. Mais dans les années 2000, comme je disais tout à l'heure, ça a été très, très important. Et disons que la droite était assez triomphante à l'époque.
Aujourd'hui, on est encore malheureusement confronté à ces débats. J'écoutais hier, ou je lisais dans la presse, les décrets que vient de prendre Donald Trump aux États-Unis sur l'enseignement de l'histoire américaine, dans lesquels il reproche donc aux universités, aux enseignants, de donner une version de l'histoire américaine qui, selon lui, dénigre les Américains blancs et font une part trop importante au mouvement antiraciste, au mouvement féministe et au mouvement de lutte et d'émancipation.
Alors, c'est épouvantable, c'est précisément pour ça qu'il est très important que les historiens de savoir doivent lutter contre les interventions de l'État sur l'enseignement de l'histoire. Et c'est très difficile parce que l'enseignement de l'histoire est effectivement un enseignement qui est aussi un enseignement civique, un enseignement politique, et faire le partage entre le domaine politique et puis le domaine du savoir, c'est très compliqué et c'est très difficile pour un pouvoir. Et donc c'est la base de la controverse entre les historiens et le pouvoir. Il faut à la fois obtenir du pouvoir qu'il donne, en particulier dans l'enseignement secondaire et aussi supérieur, des programmes qui correspondent à ce que les historiens estiment comme le plus proche de la réalité, et en même temps n'utilise pas l'histoire pour retransformer cette réalité. Et ça, on connaît très bien ça en France avec ce qu'on appelle le
roman national.
Roman national. Oui. De Clovis à De Gaulle, tout était pour le mieux dans le meilleur du monde dans l'histoire française, mais c'est pas comme ça l'histoire. L'histoire, c'est fait de plein de hauts et de bas, de plein de crises, plein de récessions, plein de scandales, et plein de progrès aussi, mais c'est extraordinairement mixte, complexe. Et si on essaie de simplifier la complexité de l'histoire, on va donner des résultats complètement insupportables.
Alors, j'ai retrouvé le titre de votre ouvrage, Enjeux politiques de l'histoire coloniale.
Merci beaucoup, parce qu'effectivement, c'est un ouvrage que j'aime bien, j'avoue, et j'oublie toujours son titre. Enjeux politiques de l'histoire coloniale. J'essaye de montrer précisément à quel point l'histoire coloniale est liée aux problèmes politiques.
Ça a été publié en 2009 chez Agon.
Oui, c'est ça. Merci.
Merci infiniment, Madame Kokrividrovitch. En plus de ce titre, donc Enjeux politiques de l'histoire coloniale chez Agon, je rappelle le titre du rapport Braza, donc publié aux éditions Le Passager clandestin. Je rappelle aussi le livre de Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France.
Et puis aussi la préface que j'ai faite pour la réédition en livre de poche du Voyage au Congo d'André Gide.
Tout à fait, mais merci beaucoup de ce rappel. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir donné un éclairage extrêmement riche d'enseignements sur cette histoire. Qu'on a eu tendance à oublier. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur la colonisation au Congo.
Et je
signale à nos auditeurs que cette émission sera disponible dans quelques instants sur le site de Radio Libertaire, radio-libertaire.org, en réécoute et en téléchargement pendant un an. Merci infiniment, Madame Kokrividrovitch, et je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à une autre fois. Merci encore.
Merci beaucoup.
Et on va se quitter avec Duke Ellington, African Flower.